et à toutes, et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Bonjour à tous.
Et c'est tout. Normalement, on aurait dû être trois, parce que Pixel aurait dû venir, mais on ne sait pas où il a disparu. Et puis, il y a Ben qui est parti en vacances 4 jours. Maran aussi est parti en week-end, tout ça. Bref, on s'est fait lâcher, ATH. Donc écoutez, on va faire un podcast d'été en duo, n'est-ce pas, en toute intimité. Et puis, vous écouterez ça sur la plage. D'ailleurs, vu le nombre de commentaires, je pense que vous êtes tous partis en vacances aussi, sur le dernier numéro. D'ailleurs, à ce propos, il est fort probable que l'on fasse une pause au début du mois d'août. Et on reprendra tout simplement vers la fin du mois d'août, début septembre. Parce que je pense que de toute façon, le mois d'août, l'actualité risque d'être un peu vide. Puis bon, même de notre côté, je ne vous cache pas que les rangs vont certainement se dégarnir. Et puis même, je pense que vous également, vous allez partir en vacances. Et donc bon, vous aurez peut-être autre chose à faire que de nous écouter déblatérer. Voilà. Bon, allez, on va commencer au sommaire de l'actualité cette semaine. Nous vous parlerons de Mega Maker. Nous enchaînerons ensuite sur The Surge. On parlera également de Wild West Online. La news de la semaine, je pense, pour ATH, c'est Kingdom Hearts 3 qui se dévoile un peu plus.
De l'année, de l'année. Sait...
Mais pas pour cette année, par contre, pour l'année prochaine, la sortie, n'est-ce pas?
Ouais, non, mais c'est la news de l'année, mais le jeu, ça veut pas dire que le jeu sortait cette année, forcément.
Voilà. On enchaînera ensuite sur un Netflix pour les jeux indépendants. Nous évoquerons également l'émulation de la première Xbox. On parlera de Crackdown 3. Et enfin, on terminera sur une bonne histoire comme on les aime sur le copyright. Vous allez voir, c'est assez savoureux. En gros, on pourrait résumer ça par quand une personne pète un câble et démontre le côté complètement absurde du copyright. Mais bon, vous verrez ça tout à l'heure. Allez, on va débuter, mon cher ATH, avec Mega Maker. Alors, qu'est-ce que c'est, Mega Maker? Eh bien, tout simplement, c'est un peu comme Mario Maker. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer vos mondes de Mega Man avec des assets de Mega Man, parce qu'il faut savoir qu'il y a toute une librairie, en gros, où vous allez pouvoir piocher dans les assets de tel ou tel jeu Mega Man pour vous créer vos niveaux perso. Et je vois d'ici les niveaux de PGM où il va falloir utiliser les strats que seule une poignée de joueurs de Megaman arrive à utiliser. Ma foi, pourquoi pas? Ça, je pense que de toute façon, c'est le genre d'outils qui sont là pour les acharnés de Megaman, un peu comme les acharnés de Mario. Par contre, je sais pas pour toi, TH, mais à mon avis, Capcom, ils vont pas tarder à t'envoyer le petit courrier, là, avec le pli de l'avocat, qui va dire « Vous êtes gentil, mais il y a des assets de Megaman là-dedans, et ça va pas être possible. »
Ouais, parce qu'en fait, c'est un projet fan. Et donc, du coup, en fait, ça reprend les épisodes de Megaman 1 à Megaman 6, en fait, tous les épisodes sur NES. Donc, voilà, ça, je trouve ça sympa. Mais c'est dommage qu'ils sont pas poussé le vice un peu plus loin, en mettant les épisodes, par exemple, les assets de Megaman X. La NES toute seule, quoi, on va dire, c'est pas super super joli. Quand tu vois que la Super NES pouvait faire une très belle 2D, donc ça c'est un petit peu dommage par rapport à ça. Et aussi que Capcom va leur dire attendez les gars, c'est notre licence quand même, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Il y a quand même des bonnes idées dans leur façon de voir Mega Man, parce qu'il y a des pouvoirs qui sont totalement inédits. Par exemple, je pense au bouclier qui renvoie les projectiles et qui à certains moments ça a l'air d'être nécessaire quand même pour progresser dans le jeu. C'est un petit peu dommage que les mecs, ils ont décidé de faire ça avec un jeu comme Mega Man et que Capcom va leur mettre la main dessus.
Il faut espérer que ce soit suffisamment underground pour que Capcom s'en rende pas compte, un peu comme Mario Maker à une époque, avant que Nintendo se penche sur le sujet face au sien. Quoi.
C'est ça. Là, alors, on en parle, le jeu est sorti, en fait. C'est disponible, mais on ne sait pas pour combien de temps, quoi. En fait, c'est ça le problème.
Ouais. En tout cas, l'éditeur a l'air super complet.
Ouais.
Et puis, surtout, pourquoi je pense que Capcom... va envoyer sa petite lettre, c'est que on sait tous que Capcom fait partie de ces gens qui ont la fâcheuse tendance à sortir des nouveaux épisodes entre guillemets de Mega Man old school. Je crois que c'était Mega Man 10, il me semble, non?
Il y avait eu Mega Man 9 qui était sorti sur le sur WiiWare, et puis après il y a eu Mega Man 10 qui est beaucoup moins bien que le 9 et qui était en fait le 9 et le 10 étaient dans l'esprit rétro des jeunesses.
Alors qu'il y avait eu des Megaman avec des graphismes Super NES, mais anciens Megaman. Ouais. Mais par contre, j'avais trouvé ça complètement abusé à l'époque de la part de Capcom de surfer comme ça sur la vague rétro, entre guillemets. Et du coup, si t'es un éditeur comme ça, tu peux plus sortir des jeux pour exploiter le filon, quoi.
Enfin, surtout, quoi, Megaman, c'est pas comme si Capcom n'avait pas usé la licence jusqu'à la moelle, hein. Mmh. Rien que la série Megaman classique, ça va jusqu'à 10, plus tous les Megaman X, je sais pas il y a combien d'épisodes, plus Megaman...
Plus Megaman 0, plus Megaman ZX.
Enfin, la licence, c'est voilà. Juste... si vous voulez faire tous les épisodes, c'est juste tentaculaire, quoi, tellement il y a d'épisodes. Mmh. Et, enfin, je trouve ça sympa quand même que le côté Megaman Maker, ça apporte un peu plus de challenge. Mais comme si Megaman avait déjà besoin de challenge à la base, quoi. C'est déjà quand même des jeux assez difficiles.
Surtout que les premiers Megaman, moi, c'est pas spécialement des jeux que je trouve super agréables au niveau de la plateforme, quoi. J'y jouais à fond à l'époque, hein. Moi, Megaman 2 et Megaman 3, notamment, j'étais à fond dessus. Mais faut reconnaître une chose, c'est que les phases de plateforme aujourd'hui c'est une purge, quoi. Enfin,
ah, c'est comme
tu souffres, quoi.
C'est comme les premiers Castlevania à l'époque, quoi. La maniabilité, t'as l'impression de que Simon Belmont c'est un char d'assaut, quoi. Le mec il se déplace au ralenti. Une fois que tu fais un saut en l'air, t'as pas moyen de bouger, en fait. T'es obligé d'attendre la fin de ton saut pour commencer à bouger. Il faut vraiment être au pixel près pour atteindre la plateforme suivante. Enfin, c'est...
Surtout quand tu fous Super Mario Bros à côté, quoi, ou Mario Bros 3, c'est incomparable, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, enfin, dans la après, c'était voulu pour pas que t'aies l'impression de jouer un super héros qui défonce tout le monde. Mais c'est vrai que la maniabilité des anciens Megaman, à juste titre, elle est quand même assez rigide, quoi.
Bah surtout que c'est des phases de plateforme assez vicieuses, tu vois, où genre t'as des plateformes qui apparaissent et qui disparaissent, enfin où il faut avoir des timings super serrés pour arriver à passer certains passages. Bref, c'est pas des jeux qui pardonnent, mais bon, je suis certain qu'il y a des fous furieux qui vont te créer des niveaux à la Kaiser Mario, tu vois, où tu vas souffrir et ils vont aimer ça.
Par contre, tu vois, dans Super Mario Maker que Nintendo avait sorti, il y avait quand même un truc qui était indispensable, je pense, pour que s'assurer du bon fonctionnement des niveaux, c'était le fait que t'es obligé de valider le niveau toi-même. Et après, il y avait des petits malins dans Super Mario Maker qui avaient fait des portes qui étaient invisibles. Ouais. Et en fait, ils mettaient une porte au début du niveau, une porte à la fin du niveau. Et donc, eux, ils faisaient le niveau comme ça, mais la porte, elle était super bien cachée. Donc, c'est-à-dire, si tu sais pas qu'elle est là, bah, t'essaies de faire le niveau classique, c'est juste impossible, quoi. Et ça serait bien si, en fait, dans Megaman, comme il n'y a pas ce système de porte qui permet de se téléporter, après, je sais pas si dans l'éditeur de niveau, elle y sera ou pas. Mais en tout cas, ça serait bien au moins que le joueur doive valider son niveau à la mano, quoi.
Oui, pour que pas qu'on se retrouve avec une chaîne des niveaux mauvais, quoi, tout simplement. Bah, genre, tu peux pas finir, quoi.
Enfin, si c'est de la difficulté juste pour la difficulté, ça a aucun intérêt, quoi. Sinon, dans ce cas-là, tu fais un jeu où tu apparais directement sur des pics et puis le personnage meurt en boucle. Enfin, ça sera pas fun, quoi.
Tout à fait. Bon, allez, on va passer à la suite et on va vous parler en vitesse de The Surge qui va avoir une démo. Voilà, c'était juste pour dire ça. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas apprécié Lord of the Fallen et qui n'ont pas pris The Surge parce que Lord of the Fallen était d'après eux mauvais. Alors, je dis d'après eux parce que j'y ai pas joué, donc je ne peux pas juger. Juste de ce que j'ai de la vie générale, visiblement, c'est pas un jeu qui est bon, voilà. Donc, il y a une démo. Alors, si vous aimez les Souls-like, on va dire, je vous suggère quand même de l'essayer, parce que je le rappelle, moi, The Surge, que j'ai trouvé que c'était un bon Dark Souls-like, alors c'est pas exceptionnel non plus, hein, attention, mais c'est un jeu où on prend du plaisir, donc si vous ne l'avez pas pris parce que vous avez eu une mauvaise expérience avec Lord of the Fallen, je vous suggère de l'essayer pour voir si ça pourrait vous convenir, tout simplement.
Bah ouais, voilà. Moi je trouve que cette démo tombe à pic parce que quand tu as fait ton test, c'est vrai qu'il y avait certaines mécaniques de jeu qui avaient l'air sympa, mais l'environnement un peu comme ça industriel et tout, ça m'avait pas du tout attiré. Donc du coup, le fait qu'ils sortent en démo, je vais pouvoir télécharger ça et surtout me faire une idée un peu de la bête pour voir ce que ça donne. Et ça se trouve, si je prends du plaisir, bah peut-être que je me serais tenté par le jeu. En tout cas, la démo sort sur le PS4, PC, Xbox One, et sur la PS4 Pro, vous avez deux configurations possibles. C'est soit le 4K qui tourne en 30 images par seconde, ou soit le 60 FPS et avec une résolution en 1080p. Et il faut savoir aussi que la démo sera déjà mise à jour avec notamment la compatibilité HDR qui avait été ajoutée en fait au jeu de base, parce que quand le jeu de base était sorti, il n'y avait pas cette fonctionnalité HDR qui était présente.
Sachant
présent,
donc... que The Surge, pour le coup, c'est un jeu qui est super bien optimisé, ils ont vraiment bien bossé leur moteur. Donc on peut pas lui retirer ça, il est vraiment fluide, ce qui est important, je trouve, dans un Souls-like. N'est-ce pas Dark Souls?
Ça, c'est je me rappelle que quand il y avait Demon's Soul qui était sorti sur PS3, Le jeu ramait, enfin, c'était pas super bien optimisé, le moteur physique était complètement à la ramasse, le ragdoll, je t'en parle même pas, ça gâchait un petit peu l'expérience, mais c'était pas le gros défaut. Mais si le jeu retournait de base en... Je m'en fous qu'il soit en 1080p, mais ils remis ça en 720p et en 60 images par seconde, ça aurait été parfait, je trouve, pour moi.
Ah tiens, ça fait penser à TH, il faudra que je t'envoie une vidéo. D'ailleurs, je vous la mettrai peut-être en lien du podcast. C'est une vidéo qui parle de Demon's Souls, justement. Et le titre de la vidéo, je crois, c'est « L'âme de Demon's Souls », qui explique en quoi cet épisode est unique, en fait, et en quoi peut-être il y a des choses de Demon's Souls qui sont un peu perdues avec Dark Souls, etc. Donc je t'enverrai ça, c'est très intéressant, je trouve. Allez, on va passer à la suite, et on va maintenant vous parler de Wild West Online. Bon, vous en avez déjà parlé, en fait. Je rappelle, c'est un MMORPG à la Red Dead Redemption, pour faire simple. Et d'ailleurs, ils ne s'en cachaient pas, hein, les créateurs du jeu. L'inspiration principale, c'est clairement Red Dead Redemption. Et donc, le jeu a eu une vidéo de 6 minutes, à peu près, qui a été dévoilée, qui présente un peu les environnements, tout ça. Alors, c'est très joli, ça a l'air pas mal, tout ça, mais par contre, déjà, je sais pas ce que t'en penses, mais les animations...
Les animations dignes d'un Bethesda, tu veux dire?
Ouais, voilà, c'est chaud, hein, c'est... Wow.
Ouais, et enfin, je trouve, quand t'as un jeu comme ça, avec un rendu, on va dire, pseudo-photoréaliste...
Ça casse le délire.
Ouais, c'est ça, c'est... Quand on veut tellement aller dans le réalisme, et t'as des animations comme ça aussi mal foutues, bah, ça jure complètement avec le jeu, en fait.
Ça fait plus Fallout West Online que Red Dead Redemption Online, quoi.
Et c'est ça. La première fois qu'on voit la vidéo, les joueurs PC ont pu dire « Ah, cool, Red Dead Redemption, on va faire sur son PC. » Et là, ah bah non, c'est pas Red Dead. Après, je pense qu'il y a un créneau à faire là-dessus, parce que enfin, le MMO sur l'univers du Far West, j'en connais pas, personnellement.
Moi non plus.
Après, pour bah, enfin, en ce qui concerne les personnages que le joueur va jouer, il y a deux types de vues. Il y a la vue à la troisième personne et la vue à la première personne. Je pense que pour ce genre de jeu-là, c'est la vue à la première personne. Mais par contre, au bout d'un moment, on voit il se balade à cheval. Ça a l'air d'être uniquement à la troisième personne. Et là, vraiment, j'ai l'impression de voir les chevals d'Oblivion, quoi, avec une animation ouais, totalement hachée. Et enfin, c'est juste dégueulasse, quoi, à voir.
Bref, écoutez, moi, je vais quand même suivre parce que même si les animations sont pourries, déjà, ça peut être amélioré. Oui. Le jeu n'est pas prêt de sortir, hein, soyons clairs, parce que là, ce qu'on a vu, c'est clairement de l'alpha bisule. Tu vois, enfin, c'est pas pour tout de suite. Et puis même un MMO sur Far West, écoute, je suis toujours preneur. Bon, j'ai peur pour eux que vu l'état d'avancement du projet, ils se fassent bouffer par Red Dead Redemption, enfin la partie online de Red Dead Redemption, parce que ça c'est sûr qu'il y en aura une. Vu comment Rockstar a misé là-dessus sur GTA V, ça m'étonnerait qu'ils fassent pas la même pour Red Dead Redemption.
Après, la différence avec Red Dead, c'est que Red Dead pour l'instant est prévu que sur Xbox One et PS4. Et que Wild West Online, en fait, c'est un jeu uniquement prévu sur PC pour le moment. Après, on ne sait pas si Rockstar va faire un portage PC ou bien si Wild West Online va faire un portage console comme on a déjà vu avec Ark ou ce genre de choses-là. Donc, pour l'instant, a priori, ils sont pas sur les mêmes machines. Donc, voilà, il n'y a pas de confrontation directe. Mais bon, évidemment, pour l'instant, le succès sera plus du côté de Rockstar parce que...
c'est Rockstar.
Voilà,
c'est... Parce que quand ils balancent un tweet avec une pauvre image pourrie, tout le monde est ouf. Donc voilà,
c'est ça. Et puis même, je me rappelle, enfin même quand le MMO avait décidé de faire sa communication sur Wild West Online,
tout le monde était persuadé que c'était
voilà première image de Red Dead Redemption 2 exclu mondial, alors que non.
Nope.
Et donc du coup, les mecs, ils ont bien joué leur coup là-dessus, quoi.
Bref, on va passer à la suite et on va maintenant vous parler de la news qui fait plaisir, c'est Kingdom Hearts 3. Alors, Kingdom Hearts 3, il y a deux nouvelles. Donc, premièrement, il y a un nouveau trailer, déjà. Un nouveau trailer qui est assez long, d'ailleurs, c'est 5 minutes, je crois, où on voit plein de choses. Et secondo, on sait à peu près quand il va sortir, c'est-à-dire l'année prochaine. J'ai bien dit à peu près, hein. Mais déjà, on sait qu'il normalement, il est censé sortir la semaine prochaine. Alors, l'année prochaine.
La semaine prochaine, hein, donc, j'y vais tout de suite.
Je prends mes désirs pour les réalités, n'est-ce pas?
C'est ça.
Bref. L'année prochaine, et a priori, je pense qu'ils vont tenir leur engagement, parce que on a appris d'autres choses aussi. C'est-à-dire que, déjà, il y a des passages, par exemple, où il y aura des histoires inédites. C'est-à-dire que vous savez, Kingdom Hearts, vous vous retrouvez dans les histoires qui ont déjà été écrites par Disney, sauf qu'elles sont modifiées, on va dire, par la présence des protagonistes de Kingdom Hearts, quoi. Par contre, il y a des cas comme celui de Toy Story qui est présenté dans ce trailer, ou t'as Pixar qui a dit qu'ils aimeraient bien en fait qu'ils fassent une nouvelle histoire. Et donc l'histoire se situera après Toy Story 2. Ensuite, ils ont dit aussi que il y aurait moins d'univers peut-être, mais que les univers seraient plus vastes et qu'il y aurait plus de variété de gameplay. Alors ce qu'ils entendent par là, c'est que par exemple dans le trailer de gameplay qu'ils ont montré là, à un moment donné, tu as un passage en mode Titanfall où il y a des jouets robots et t'as Sora qui saute de robot en robot, qui s'empare des robots, qui va casser d'autres robots, qui s'empare d'autres robots, ainsi de suite. Vraiment, on aurait dit un gameplay de Titanfall mais en mode Kingdom Hearts, et j'ai trouvé ça super marrant. Ils ont aussi également précisé que le jeu serait jouable jusqu'à 5 personnages parce qu'ils voulaient éviter le syndrome de frustration où tu mets un personnage de côté et du coup t'as pas ta team au complet, quoi.
Ouais, puisqu'en fait dans les premiers Kingdom Hearts, hein, même les récents en fait, je vais prendre un exemple simple, on va dans le monde d'Aladin, donc Agrabah, et donc il y a Sora, Dingo et Donald qui arrivent dans le monde, et puis bah comme Aladin c'est un mec sympa, il rejoint l'équipe. Sauf que le jeu, il avait pas prévu qu'on puisse jouer avec 4 personnages directement dans l'équipe, du coup tu devais soit mettre Dingo, soit Donald, soit Aladin en personnage de support, donc il apparaissait pas directement lors des combats. Et du coup ça fait un petit peu bizarre parce que t'as tes personnages qui sont là, mais il apparaît dans les cinématiques, sauf que pendant les combats, bah il apparaît pas parce que techniquement c'était dur de gérer l'IA du personnage. Donc là maintenant, ils ont décidé de pouvoir afficher jusqu'à 5 personnages en plus, donc on n'aura plus cette frustration où bah, il y avait un personnage de l'équipe qui devait squeezer et le remplacer par le héros du monde pour être, on va dire, fidèle à l'univers, parce que quand même quand t'es dans l'univers d'Aladin, bah t'invites quand même qu'il y a Aladin avec toi, et il sera plus mis de côté en fait, et ça déjà c'est une première avancée. Deuxième news importante, c'est qu'il y aura un deuxième personnage qui sera disponible, mais vraiment jouable, parce que quand on parle de 5 personnages jouables, c'est pas 5 personnages qu'on va contrôler directement, parce que on contrôle uniquement Sora. Et donc il y aura un nouveau personnage qui va être jouable mais vraiment à 100% et qui n'a pas été révélé pour le moment, on sait pas qui c'est, même si dans certains épisodes il y avait des personnages qui étaient disponibles comme Riku dans l'épisode Chain of Memory sur Game Boy Advance et sur le remake qui avait été refait sur la version Final Mix de Kingdom Hearts.
Ouais, ils sous-entendent même qu'il y en aura plus qu'un seul, hein, d'ailleurs. Bon, après, c'est pas clair, mais en tout cas, il y aura pas que Sora qui soit jouable, ça, c'est sûr.
Ouais, mais après, moi, enfin, je suis quasiment sûr à 100% que Riku sera la partie, vu que à quel point c'est un peu le Sasuke-like de l'univers Kingdom Hearts, quoi.
Ah, je suis trop dark.
Ah, c'est ça. Et puis, enfin, même, tu vois, dans le genre, c'est les ténèbres m'attirent.
Riku 666.
Et, c'est ça. Et donc, du coup, t'as ce côté un peu là avec la rivalité entre Sora et Riku qui est de mise.
Il y aura peut-être aussi, je pense, l'héroïne de... Comment il s'appelle cet épisode que personne n'a joué là.
Sleep.
Voilà. Je dis ça et je vais me faire défoncer par les fans de Kingdom Hearts.
Qui est un très bon épisode.
Je pense que, pour le coup, ce serait l'occasion d'avoir le best-of des héros de Kingdom Hearts, quoi, en fait.
Oui, enfin, même dans Kingdom Hearts 2, au début, on commence pas par Sora directement, on commence par un simili qui est Roxas. Enfin, donc, à chaque fois, le jeu nous a quand même laissé plusieurs fois jouer un autre personnage que Sora. Mais sinon, pour revenir à la vidéo de gameplay qui a été montrée, vraiment, enfin, en tout cas, sur le monde de Toy Story, je suis assez bluffé du rendu graphique, quoi. J'ai l'impression de voir les films Toy Story, mais cette fois-ci jouable en vrai. Et c'est juste un pur plaisir pour les yeux.
Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est le passage en jardin, mais c'est vraiment... tu sais, le Toy Story, il avait un rendu particulier quand c'était en extérieur, en fait. Parce que ça faisait mi-synthèse, mi-réaliste. Enfin, c'est un rendu assez particulier. Ils ont réussi à reproduire ça, quoi. C'est vraiment impressionnant.
Ouais, et puis même le design des personnages a été revu par apparaître dans ce monde-là. Et pour être cohérent, donc il y a ta Sora, Dingo et Donald qui sont mis en mode jouet. C'est juste top, quoi, par rapport à ça. Mais franchement, moi, ce que j'ai le plus apprécié, c'est que Pixar laisse carte blanche à Square Enix en leur disant « crée une histoire originale ». C'est quand même Pixar, quoi, et Disney qui est derrière. Et il leur laisse quand même une liberté créative par rapport à ça.
Donc, alors, apparemment, il y a une version Switch qui sera à l'étude.
Ouais.
Pour le moment, ils ont dit qu'ils verront ça après la version Xbox One et PS4, parce que, évidemment, la Switch étant moins puissante, il y a quand même du taf. Après, le truc, c'est que Kingdom Hearts, je pense qu'il est refaisable sur Switch, parce que, alors, je veux pas dire qu'il est pas très avancé techniquement, mais... il est quand même assez épuré, quoi, si tu veux. Donc, je pense qu'il y a moyen sur Switch de faire quelque chose de pas dégueulasse non plus, quoi.
Ouais, enfin, c'est un peu comme les jeux, comme les Mario, tout ça. Enfin, quand le Mario, même sur Wii U, qui est sorti sur Wii U, c'était juste ouf de voir le rendu graphique, parce que même Mario Kart, enfin, graphiquement, c'est juste une tuerie, alors que c'est une console qui est beaucoup moins puissante que la PS4 et la Xbox One, mais pourtant, t'avais l'impression que le jeu, limite, était plus beau. C'est parce que le rendu cartoon, en fait, s'adapte mieux à ce genre de choses-là.
Donc, bon, écoute, rendez-vous en 2018.
Ouais.
En espérant que ce soit la bonne cette fois.
C'est ça.
Parce que ça fait quand même un moment qu'il a été annoncé, hein, Kingdom Hearts, hein, donc voilà, il serait temps.
Et puis juste une dernière chose pour revenir sur le fait qu'il y avait des phases de gameplay qui avaient l'air d'être inédites. Il y a quand même l'air d'avoir pas mal d'idées qui ont été piochées à droite à gauche.
Bah, c'est un jeu qui a l'air généreux en fait.
Ouais, après il faudra voir ça bien sûr sur le long terme et voir ça si c'est fait sur tous les niveaux et si à chaque fois ils arrivent à trouver une petite astuce comme ça de gameplay qui s'adapte totalement. Parce que enfin, le coup là où Sora justement se la joue au mode Transformers Titanfall, je l'avais pas vu venir. Et c'est quand même bien adapté, tu vois, c'est un truc des mécas, mais dans un univers de jouets mignons. Et c'est sympa, parce qu'en plus ça, la vue passe en mode FPS à ce moment-là, donc...
Ouais, il y a une interface un peu particulière, voilà. Ils ont refait l'interface pour ces phases-là uniquement. Donc tu vois qu'il y a un souci du détail, quoi, c'est impressionnant.
Exactement.
Allez, on va maintenant vous parler d'un Netflix pour les jeux indépendants, ça s'appelle Jump. En gros, c'est un site... Vous allez payer un abonnement comme Netflix et où en payant un abonnement vous allez avoir accès à une bibliothèque de jeux où il y aura eu une curation en fait. Parce que c'est ça l'idée. Les créateurs de ce site, ils sont partis d'un constat, ils bossaient sur leur jeu indé à eux et puis ils se sont dit non mais aujourd'hui si on sort un jeu indé ça va pas être possible. Il y a plus de place sur le marché, quand tu sors un jeu sur Steam, il y a 3 milliards de jeux qui sortent en même temps pour se faire remarquer, c'est pas possible. Donc ils sont partis sur un autre projet, ils ont eu une idée, et donc cette idée c'est un Netflix indépendant, voilà. Donc tu t'abonnes, tu as accès à une bibliothèque de jeux indépendants sur laquelle ils ont fait un tri. Par contre, il va falloir une connexion internet, parce que, alors c'est pas du streaming, mais en fait il va télécharger des bouts de jeux, un jeu en niveau par exemple, il va dire tu télécharges le niveau 1. Et une fois que tu auras fini le niveau A, il va charger le niveau suivant, etc. Donc il n'y a pas les inconvénients du streaming en ce sens que tu vas avoir une espèce de latence qui va se mettre en place et du coup tu vas avoir du retard par rapport au jeu et ça va foutre le bordel.
Ou bien si t'es abonné Orange quoi aussi.
Voilà c'est ça, voilà par exemple. Ah oui j'ai toujours pas internet au fait hein. Donc s'il y a un problème du coup ça fout la merde quand tu joues. Là, l'idée, c'est que quand même, tu télécharges une partie du jeu, mais pas tout le jeu. Alors moi, ça me pose un problème, vous le savez, parce que j'aime pas les DRM, mais d'un autre côté, je comprends l'idée, c'est-à-dire que t'as quand même accès à toute une bibliothèque de jeux, donc tu peux pas avoir tous les jeux chez toi, sinon, si les mecs ils téléchargent tous les jeux, ça va pas être possible. Donc voilà, moi je trouve une initiative intéressante. Après, je suis pas convaincu que ça marche, parce que c'est que les jeux indépendants, et je pense que pour que ça marche, il faudrait que ça concerne aussi les jeux d'éditeurs, tout simplement. Mais en tout cas, je trouve l'idée très intéressante. Et puis, je pense que je testerai parce que je trouve, pour moi, ce que je fais, c'est-à-dire, tu sais, défricher un peu des nouveautés, etc. Ça peut être très pratique pour tester plein de jeux à la fois. Et une fois que t'as fait tes tests, ben écoute, tu vas acheter les jeux qui t'intéressent, quoi, en fait, tout simplement.
Bah, moi, enfin, je suis d'accord avec toi sur le fait que l'initiative est sympa. Proposer un catalogue comme ça de jeux indépendants et pour les personnes qui souhaitent justement avoir une sélection qui est faite pour eux. Un peu à la manière de ce que fait Netflix avec les séries. C'est-à-dire qu'il y a pas toutes les séries qui sont dessus, mais en général, ils sont quand même assez, ils sont quand même, voilà, ils choisissent quand même un catalogue assez ciblé sur tel ou tel domaine ou bien sur telle thématique. Et là, ce qui est cool, c'est que, bah, apparemment, ils veulent faire la même chose, mais pour le jeu vidéo. Par contre, je suis pas trop rassuré sur le fait que ça télécharge pas tout le jeu entièrement. C'est-à-dire que si c'est un jeu, on va dire à peu près comme, je sais pas, moi, je veux dire un jeu à la Shovel Knight, pour télécharger le niveau 1-1, 1-2, etc. Et s'il y a plusieurs niveaux, ou même, par exemple, Super Meat Boy, qui a beaucoup, beaucoup de niveaux, et à chaque fois, t'es obligé d'attendre qu'il télécharge le niveau suivant pour pouvoir jouer. Ça peut très facilement casser un.
Oh, mais je pense qu'il est téléchargé au fur et à mesure pour que ce soit seamless. Mais le problème, c'est du coup, t'as un problème de connexion entre temps, qu'est-ce qui se passe?
Ouais.
Est-ce que tu peux continuer à jouer à la partie du niveau que t'as téléchargé, mais à ce moment-là, si tu peux continuer à jouer, qu'est-ce qui se passe quand t'arrives à la fin du niveau si t'as toujours pas connexion? Enfin, voilà, c'est problématique.
je trouve ça assez problématique par rapport à ça. Mais après, enfin, il faudra voir sur le long terme si. Leur business model a bien été étudié. Et puis, je pense que quand même, je trouve pas ça trop dérangeant qu'il n'y a pas des gros jeux d'éditeurs triple A là-dessus. Vu que si ça s'adresse vraiment à un marché bien spécifique qui est le jeu indépendant. Et je pense que ça peut attirer son épingle du jeu par rapport à ça. Et après, ça n'a pas à détrôner Steam non plus. Mais au moins, je pense que sur son créneau des jeux indépendants et proposer une bibliothèque comme ça, ça peut attirer un public un peu connaisseur, mais qui va être fidèle et qui va justement entretenir la plateforme. Et je pense que ça peut se développer au fur et à mesure des ans en restant tout à fait rentable. Après, il faudra voir le catalogue de jeux, quoi.
Ce qui est intéressant aussi, c'est la méthode de rémunération des studios. Calculer le pourcentage de temps que les gens ont passé sur tel ou tel jeu, tu vois. Et en fonction du pourcentage que t'as fait, en termes de temps, bah t'es payé en fonction de ça. C'est-à-dire que si le mec a joué 2 heures, bah t'es payé pour 2 heures de jeu. Et là, c'est intéressant, c'est que, imaginons, tu fais un jeu qui est assez court. Sur Steam, ce qui passe souvent, c'est que les gens testent les jeux, et puis avant la limite des 2 heures, ils sont remboursés. Donc du coup, t'as 0 euro dans ta poche. Là, ce qui est intéressant, c'est que en fonction du trafic que ton jeu génère sur la plateforme, tu es rémunéré pour ça. Donc, quoi qu'il arrive, tu touches des pépettes, même si le jeu, le mec, il y a joué que, allez, on va dire 20 minutes. Donc, ça, je trouve ça intéressant.
Ouais, bah ça,
d'un point de vue pour les studios, l'initiative est intéressante.
Du coup, ça va défavoriser les jeux courts quand même.
Ah oui, mais c'est toujours mieux que les jeux courts sur Steam où les gens, ils y jouent 2 heures, ils finissent, ils seront remboursés.
Non mais c'est sûr. Mais après ouais, mais enfin moi je pense que enfin ce qui serait plus équitable c'est le nombre de joueurs dessus quoi. Au moins s'il y a 50 personnes qui a joué par ma Super Meat Boy, il y a 50 personnes qui a joué je sais pas moi un jeu court qui dure 1 heure, ils touchent le même revenu quoi.
Bon, allez, on va passer à la suite et on va maintenant parler de l'émulation de la toute première Xbox. Et oui, l'émulation de la Xbox première du nom, ben c'est tout un sujet parce que ça fait des années que ça n'avance pas en fait. Et il se trouve que on a enfin un émulateur qui a réussi à faire tourner des jeux commerciaux. Cet émulateur, c'est XQEMU. Ce qui, ma foi, est une bonne nouvelle parce que je trouve que la Xbox est une console qui est un peu trop délaissée. Alors que c'est quand même une machine qui a des jeux exclusifs, qui a une identité, quoi qu'on en dise. Et je pense que c'est dommage, par exemple, que les gens n'aient pas accès à des jeux comme Panzer Agunorta, Jet Set Radio Future, Otogi, Blinks, enfin ce genre de choses. Je me rappelle que à une certaine époque, on disait que c'était un PC déguisé, n'est-ce pas ? Quand tu penses aux consoles d'aujourd'hui qui sont 1000 fois plus des PC que la première Xbox, qui en plus pouvaient se targuer d'avoir plein de titres exclusifs et d'avoir une identité que Microsoft n'a plus aujourd'hui, ben ça fait sourire.
Mais enfin les gens disaient à l'époque que c'était un PC déguisé juste parce qu'il y avait un disque dur, enfin c'est une chose qui était assez conne, mais bon, comme si avoir un disque dur pour la capacité de stockage suffisait à dire que c'était un PC. Mais sinon ouais, c'est vrai que la première Xbox elle avait quand même des jeux assez chouettes dans son catalogue qui étaient exclusifs, et par exemple je pense tu vois à des jeux comme les Chroniques de Riddick sur la première Xbox. À l'époque, je me rappelle, c'était juste une claque graphique de malade. Il y avait aussi le premier Fable, enfin ça lançait quand même pas mal de nouvelles licences aussi. Il y avait quand même le début de pas mal de licences qui existent aujourd'hui, Halo. Je crois qu'il y avait Forza aussi qui était sorti à l'époque.
Ah, donc... Top Spin, putain.
Et puis même, quitte à choisir des jeux qui étaient sortis sur la PS2 ou sur la Xbox première du nom, fallait mieux choisir les jeux sur la première Xbox qui étaient en général mieux finis, avec plus de... un meilleur rendu graphique et ce genre de choses-là, parce qu'elle était plus puissante quand même qu'une PlayStation 2. Et ouais, je trouve ça quand même que c'était sympa. Et puis même la première Xbox, même en termes de représentation marketing, elle avait cette ce côté sombre et avec cette lumière verte en fait. La première Xbox, ça faisait vraiment l'outsider qui arrive pour tout défoncer. Et puis là, t'as l'impression que maintenant en fait, Microsoft a un peu perdu ce côté agressif qui faisait de la première Xbox quand même une console qui avait un potentiel en fait.
Ouais, d'ailleurs, on en reparlera quand on évoquera Crackdown 3. Hein. Mais voilà, donc pour moi c'est une console en tout cas qui ne mérite absolument pas d'être oubliée. Alors je sais bien que un peu comme la GameCube, elle a souffert de l'hégémonie de la PS2, parce que c'est ça en fait. Hein. La GameCube, la Dreamcast et la Xbox, elles ont toutes souffert de l'existence de la PS2 quoi. La Dreamcast, elle a souffert parce que Sony a dit « Ah en fait on va sortir une console avec un lecteur DVD, du coup il y a personne qui a acheté la Dreamcast ». Bon, ça plus le fait que Sega, le marketing c'était pas leur fort à l'époque. Hein. Microsoft et Nintendo, ils pouvaient juste pas lutter contre l'hégémonie du catalogue de la PS2 quoi, enfin c'est ça le problème. Et malgré le fait qu'elle avait des super exclus... quand tu vois le nombre de jeux qu'il y a sur PS2, tu peux juste pas lutter quoi. Et c'est dommage que à cause de ça, elle soit un peu tombée dans l'oubli. Alors que je le redis, pour moi, je trouve qu'elle a 1000 fois plus d'identité en termes de jeux que la Xbox One, par exemple. C'est même pas comparable.
C'est clair, mais la génération vraiment PlayStation 2, GameCube, Xbox et même Dreamcast, pour moi c'était un peu l'âge d'or du jeu vidéo, mais t'avais quand même pas mal de d'idées qui étaient encore à défraîchir du fait que la 3D était quand même assez récente. Et si tu veux, c'était un peu
Bah, les coûts de production n'avaient pas encore explosé comme aujourd'hui, et du coup, il y avait encore de l'audace, tu vois. Enfin, alors après, je suis pas là à dire non plus, oh là là, aujourd'hui c'est nul à chier. C'est pas du tout. Hein. Moi, je m'éclate aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est une époque où tu sens qu'il y avait une espèce de créativité comme ça dans les grosses productions, en fait.
Puis même les licences avaient tous leur identité propre. Bam, on passait un Metal Gear à Splinter Cell. Et bah aujourd'hui, les Metal Gear 5, Phantom Pain et Splinter Cell Blacklist, qui sont les deux derniers épisodes sortis de leurs licences respectives, ils se ressemblent beaucoup plus que Metal Gear Solid 2 et le premier Splinter Cell à l'époque.
C'était deux visions différentes de la frustration.
C'est ça. Et là maintenant, t'as l'impression que le jeu vidéo, c'est quand même beaucoup plus standardisé qu'à l'époque. Et tu le ressens quand même dans les licences comme ça.
Voilà. Donc, XMU... XQMU, putain, ça c'est comme la Xbox One X, soit c'est un ours à la con encore. En tout cas, moi, c'est un émulateur que je surveillerai parce que c'est une console, je le redis, qui le mérite. En plus, moi, je me rappelle à l'époque, c'est une console que j'avais essayé en avant-première. Et c'est d'ailleurs le fait de l'avoir essayé en avant-première qui me l'avait fait acheter parce que j'avais pu tester Halo en avant-première et je t'assure que Halo, la première fois que tu joues, la claque.
Et en plus,
la claque monumentale, quoi.
Ce qui est cool pour la nouvelle génération, c'est que vous serez pas obligé de jouer avec la manette de l'époque. Vous pourrez avoir une manette 360 ou une manette Xbox One.
Moi, j'aimais bien la manette de la première Xbox. Je sais pas ce que vous avez contre.
C'était un tank, le bordel. La manette, elle faisait 10 kilos.
Bah oui, mais justement, moi, j'ai des grosses paluches. Ça me convenait très bien. Bon, après, je fais partie des rares qui aiment la manette Dreamcast, hein, donc je suis une exception.
Mais par contre, il y a un jeu que je tenais à citer, qu'on n'avait pas cité tout à l'heure dans les jeux exclusifs, c'était Jade Empire. Un jeu que j'ai jamais fait, mais qu'il m'a toujours fait de l'œil. J'y ai pu y jouer un petit peu, mais tu sais, dans les bornes de la Fnac, donc du coup...
Bah écoute, prends-le sur PC, ATH. Il n'y a pas besoin d'un PC de tueur hein, pour y jouer. Donc,
Je savais même pas qu'il venait sur PC qui était sorti, en fait.
Je sais pas si il est sorti tout de suite à l'époque sur PC, mais il est sorti quelques années après, je crois. Mais il est disponible, voilà. Bon, allez, on va maintenant justement parler de Microsoft. Hein. C'est l'instant troll, hein, je vous le dis tout de suite, on va parler de Crackdown 3. Alors Crackdown 3... Non mais c'est honteux. Le jeu, il est vide, parce qu'on a eu une vidéo de gameplay récemment là qui a été dévoilée. Il y a 10 minutes de vidéo, et c'est 10 minutes où il se passe tout le temps la même chose, où il tire sur des gens, en gros, où tu vois des décors qui sont vides, où il se passerait pas grand-chose d'intéressant. Alors certes, t'as de la physique un peu chouette, genre tu sais, il y a des espèces de bombes magnétiques qui attirent tous les véhicules dans le coin, mais à part ça, t'as l'impression que le mec, il erre sans but, à tirer sur tout le monde, il se passe rien, c'est nul, et c'est vide, et c'est moche, et tu dis, mais comment ça se fait que ce jeu, il va sortir, quoi? Et en fait, tu comprends pourquoi ils l'ont pas montré plus en détail durant la conférence Microsoft, parce que c'est la honte, quoi. Enfin...
Et puis même, enfin, c'est quoi ces ballons de plage qui flottent dans la ville comme ça? Enfin, c'est
ouais.
Il y a des ballons de plage comme ça qui apparaissent dans la ville. Enfin, c'est quoi le délire? Ils flottent comme ça dans la ville. Tu demandes de quelle est la cohérence en fait avec le jeu. Et puis ouais. Après, le jeu, enfin, techniquement, c'est juste dégueulasse. Hein. T'as là, on parlait de la Dreamcast hors podcast. Moi et Thierry, on s'est dit que le jeu pourrait tourner sur Dreamcast, mais enfin, juste le graphiquement, pas tout ce qui est l'aspect physique, etc.
Les décors, c'est des décors Dreamcast pour moi. Enfin. Alors peut-être avec une moins meilleure distance de vue, mais on dirait du Jet Set Radio en plus propre, quoi.
Ouais, c'est ça.
Mais sinon, t'as le personnage qui ressort, là, et puis le reste, c'est absolument dégueulasse, et tu te dis, mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Tu comprends pas, en fait.
La ville, ça a l'air d'être une ville futuriste, mais on dirait plutôt que c'est un entrepôt géant, en fait, industriel, quoi. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de piétons dans les rues, enfin, c'est techniquement très vide, quand même. En voyant ça, j'ai pas l'impression de jouer un policier du futur, quoi. J'ai plus l'impression d'être sur une map multijoueur online, quoi.
Et du coup, on revient à ce qu'on avait dit durant le podcast de l'E3. En fait, ça aurait dû être un jeu multijoueur avec de la destruction physique, qu'ils n'ont toujours pas montré, d'ailleurs. Parce que c'est ça le truc que mamie disait, ah oui, c'est inquiétant qu'il montre pas. Ouais, je confirme, c'est inquiétant, parce que là, il diffuse une vidéo 10 minutes de la partie la moins intéressante du jeu, quoi. Et le multi, on l'a toujours pas vu. Puis ça a pas l'air du tout varié. T'as l'impression d'avoir une coquille vide. Ils ont montré un mec qui tire sur des gens, et qui court, et qui tire sur des gens, et qui court, et qui tire sur des gens, et qui fait que ça, et on se fait chier, quoi.
Le jeu manque d'âme, en fait, pour moi. J'ai l'impression que t'as pas vraiment d'objectif à part tout détruire. Après, peut-être que les armes vont être fun, je sais pas. Mais, enfin, franchement, être fun dans un environnement comme ça, si austère, si vide, Enfin, ça, pour moi, le jeu est catastrophique. Et je pense que le jeu aurait été annulé si Scalebound n'aurait pas été annulé non aussi, tu vois.
Ouais. Parce que là, concrètement, je veux dire, on va pas se cacher derrière son petit doigt, tu mets Agents of Mayhem à côté, qui est le concurrent direct, il fout la honte, hein. C'est autre chose en termes d'ambiance, c'est autre chose en termes de graphisme. Et Dieu sait que déjà, Agents of Mayhem, je suis pas du tout hypé. Ah,
moi non plus. C'est-à-dire, enfin, c'est le studio Volition que moi je...
C'est dire à quel point on en a rien à foutre de Crackdown 3, quoi.
C'est franchement, si tu me demandes de jouer à Agents of Mayhem ou bien Crackdown 3, les deux sortent demain, tu me dis lequel tu veux. Je vais très clairement aller dans Agents of Mayhem parce qu'au moins, il y a l'air d'avoir un peu d'humour dans les personnages qui ont l'air un peu plus décalés. Alors que là, j'ai l'impression que non, enfin, c'est trop premier degré, c'est trop vite, c'est trop...
Bah, c'est même pas premier degré, c'est que... Parce que premier degré, tu sais, ça sous-entend que c'est sérieux, tu vois. Mais là, en fait, il y a rien.
Ouais, c'est
ça. Y a pas de narration, y a pas de personnalité. Alors peut-être que c'est la manière dont joue le gars, parce qu'ils ont filé ça à un YouTuber, tu vois, donc... peut-être que si ça se trouve il y a une histoire, mais ils auraient peut-être mieux fait de sortir un trailer en même temps pour montrer dans ce cas-là, parce que pour le coup on le voit pas, hein.
Enfin, je sais pas, j'ai pas entendu le héros lancer une seule punchline qui ferait un peu badass, tu vois, un peu comme un Marcus Fenix il ferait dans un Gear of War par exemple. Marcus Fenix, c'est un mec, tu vois, un peu badass et tout, qui, le jeu il est un peu premier degré et en même temps il est un peu second degré, et il balance des fois des punchlines qui sont complètement cons, qui ont rien à voir, et si tu veux ça fait passer un peu le jeu un peu humoristique, mais là j'ai l'impression même que le personnage qui joue est mort à l'intérieur, quoi.
C'est ça. Bon. Je te propose qu'on termine le podcast ATH sur une dernière news.
Oui, ça va.
Je vais vous parler maintenant de la magie du copyright. Alors, il faut savoir que ces dernières semaines, il y a une compositrice qui a bossé notamment pour Star Mazer DSP et pour River City Ransom Underground. Alors, Star Mazer, je rappelle, c'est un Kickstarter dont on avait parlé. Ils avaient sorti un prologue en mode shoot'em up qui était en accès anticipé. Et River City Ransom Underground, on en avait aussi parlé. Donc, c'est un beat'em all dans l'univers de River City. Kunio-kun, je crois, en japonais.
C'est ça, ouais.
Qui est sorti récemment, lui également. Et il se trouve que cette compositrice a eu quelques petits soucis de santé l'année dernière, je crois. Et que elle a commencé à péter une durite. Elle a posé une réclamation auprès de Steam pour que Star Mazer DSP, qui était en accès anticipé, donc soit retiré de l'accès anticipé, pour qu'ils ne peuvent plus bosser sur leur accès anticipé. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, second point, elle a récemment fait la même chose pour River City Ransom Underground, qui était, pour le coup, sorti sur Steam. Donc le jeu n'est plus disponible sur Steam. Mais ça, c'est que le début de l'histoire, parce qu'on pourrait se dire encore, bon... On sait pas comment se sont passés ces contrats avec ces boîtes-là. Peut-être que effectivement ces boîtes-là ont filouté. Tu sais pas, tu vois. Donc tu peux pas prendre parti comme ça. Là où ça commence à poser problème, c'est que elle a commencé à taper à tout va sur les chaînes de YouTubeurs qui avaient des vidéos de ces jeux-là. Et vous savez que sur YouTube, quand tu te prends 3 strikes, on fait fermer ta chaîne. Et le truc, c'est que elle a commencé à utiliser cette stratégie pour dire aux YouTubeurs, alors en gros, soit tu fais une mauvaise pub à ces studios-là, et dans ce cas-là, j'enlève mes strikes et tu récupères ta chaîne, soit tu fais pas ce que je dis, et en gros, je continue à te bombarder, et au bout d'un moment donné, tu n'auras plus ta chaîne. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a plein de youtubeurs comme ça qui ont perdu leur chaîne. Bon, des petits youtubeurs, les gros étant suffisamment informés pour se défendre, quoi, on va dire. Mais du coup, elle s'est attaquée aussi aux youtubeurs. Alors, attention, je fais pas cette news, si vous voulez, pour attaquer cette personne personnellement, parce qu'en plus, il y a eu des histoires comme quoi elle a reçu des menaces de mort, etc. Donc, vous savez, les gens très intelligents sur Internet, hein, comme d'habitude. Mais, je voulais illustrer un point, c'est-à-dire que vous avez une personne seule qui a quand même réussi, rien qu'avec le copyright, à retirer 2 jeux de Steam, qui est quand même la plateforme principale où si t'es pas dessus, t'es mort, quoi, et qui a réussi à fermer plein de chaînes YouTube, alors que, je veux dire, en termes de droits, c'est quand même assez douteux, quoi, parce que aujourd'hui, les studios, la plupart d'entre eux ont quand même sécurisé leur contrat, si tu veux, pour qu'ils soient propriétaires des musiques. Justement, pour pas se retrouver avec ce genre de problématique. Et on sait par exemple que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui ne sont pas engagés par les studios de développement, parce qu'en France, on a un droit assez particulier en termes de musique, qui fait que bah, les studios ne veulent pas bosser avec des Français, parce qu'ils savent que sinon, on peut se retrouver dans des situations assez problématiques. Donc là, on a une compositrice américaine qui a quand même réussi, malgré le droit américain, à faire ce genre de choses. Voyez ce que on peut faire avec le copyright, c'est-à-dire énormément de choses, alors qu'on n'a pas forcément beaucoup de droits, notamment sur YouTube.
Alors, que les jeux soient retirés déjà de Steam, comme tu l'as dit, on n'est pas au courant de ce qui s'est passé derrière, si le studio n'a pas voulu payer ses droits d'auteur, ou je ne sais pas quoi, ou bien de quelles conditions ont été négociés le contrat, mais ça, j'ai envie de te dire, à la limite, ça ne nous regarde pas. Mais par contre, que la nana s'en prenne à des YouTubers, et qu'après, on puisse fermer les chaînes des YouTubers, alors que le mec, même si c'est une petite chaîne, mais ça se trouve, sa petite chaîne, lui, et le mec, il l'aimait, tu vois.
Précisément, tu vois, en plus... La petite chaîne, le mec, il fait pas ça pour la gloire de YouTube, quoi. Tu le fais pour toi aussi, au bout d'un moment. Et quand tu fais quelque chose pour toi, imaginons demain, il y a quelqu'un qui arrive à faire fermer Game Info. Moi, je te dis, je suis pas bien, hein, parce que j'ai bossé sur ce site, quoi. Enfin, ce site, c'est mon bébé, quoi. J'y ai investi des heures et des heures de travail. Alors, j'imagine un YouTuber en plus qui doit se taper le format vidéo, qui demande encore plus de travail que le format audio. Mais t'imagines, du jour au lendemain, tout ton travail comme ça, il est rayé de la carte. Alors que tu t'es investi bénévolement comme ça dans un truc, mais ça te bouffe, quoi, de l'intérieur. Ça te rend dingue. Et je trouve anormal que des petits youtubeurs comme ça, parce que les gros, si tu veux, je sais que les gros, ils ont les moyens de se défendre. Parce qu'ils ont l'habitude de ce genre de problème.
Et surtout que derrière, ils ont un network, sont beaucoup plus puissants et capables de, même si YouTube veut fermer la chaîne, ils peuvent toujours négocier. Alors que si c'est un mec comme Mordrain ou quelque chose comme ça qui a pas forcément un network derrière lui, ça sera beaucoup plus compliqué pour quelqu'un comme lui de justement de se faire entendre et de se faire valoir raison.
Alors qu'il y a du taf, que le mec il rentre du boulot le soir, il doit faire son montage, que c'est pas évident, que il s'épuise à faire des trucs justement parce qu'il a envie de partager des choses avec les gens, et d'un seul coup comme ça, du jour au lendemain, merci, au revoir, quoi.
Ah, mais surtout que lui, à la base, déjà, pour le premier strike, le mec, il est pas forcément courant de ce qui se passe dans tous les studios de jeux vidéo. Et il est pas forcément courant que, par exemple, cette compositrice-là, elle est en litige avec son employeur.
Bah, surtout qu'en plus, les jeux, ils sont sortis depuis un moment. Tu peux, comme ça, fermer une chaîne pour une vidéo qui a un an, tu vois. Enfin, c'est absurde.
Une fois qu'une œuvre est sortie, on ne devrait plus l'interdire. C'est-à-dire, je suis plutôt dans le fait où le jeu est sorti à telle date, et puis après, une fois que la date est finie, bah, peut-être que l'éditeur ne pourrait plus vendre le jeu, et, ou bien ce genre de choses-là, ça je m'en fous, mais au moins que le jeu puisse être toujours récupérable, qu'il y a toujours un fichier, que n'importe qui veut faire son devoir d'historien de jeux vidéo, ou bien un travail de mémoire, ou même pour y jouer pour le plaisir.
Ouais, le domaine public, voilà. Quoi. Un truc qu'on respectait à une époque, et qu'on a bouffé petit à petit, parce que Disney voulait que ses œuvres ne tombent pas dans le domaine public. Voilà, non mais...
Imaginez demain, il ressort un Retour vers le futur 1, 2, 3 en format Blu-ray, 4K, ce que tu veux, et il dit « Ah merde, on a plus les droits pour la musique, on n'arrive pas à les négocier. » Bah du coup, on fait une nouvelle musique pour... Bah non, ça marchera pas.
Tu veux dire comme Dragon Ball?
Oui, entre autres, tu vois, donc... Non, nous on veut l'expérience qui était à l'époque, et si justement on cherche à jouer à ces genres de choses-là et à découvrir, c'est qu'on veut l'expérience originale, même si elle est moins bonne, même si elle est moins ce que tu veux, moins ceci, mais au moins on a le feeling. Et là, en plus de ça, enfin, le jeu, je veux dire, il est sorti il y a même pas un an. Le mec, il joue à son jeu, il fait sa vidéo, ouais. Et enfin sa chaîne ferme à cause d'une meuf qui a voulu, voilà. Et en plus de ça, enfin, je veux dire, moralement, par rapport à la nana qui fait des menaces comme ça, ça s'appelle du chantage. Et le chantage,
ah oui, ça c'est clairement
en termes juridiques,
c'est impardonnable. Hein,
en termes juridiques, c'est interdit le chantage. Enfin, ça serait bien que tous les, malheureusement, tu vois, ils sont trop petits, mais ils devraient se regrouper justement pour faire une action contre YouTube pour que justement ils puissent.
Apparemment, alors parce qu'il y a un YouTuber qui est avocat en fait. Enfin, il a une chaîne où il parle de la loi, tout ça, etc. Qui se trouve être dans le même état qu'elle, il vit dans le même état qu'elle, et que là en ce moment, ils sont en train de préparer une action en justice. Ils ont fourni l'adresse de cet avocat, etc., pour que des gens aillent le voir et qu'ils fassent une action en commun, en fait. Et ce qui serait bien, en plus, c'est que ça fasse jurisprudence, surtout, tu vois. Parce que jusqu'à maintenant, YouTube a toujours déclamé à droite et à gauche que oui, on vérifie les plaintes, etc. Non, vous les vérifiez pas, la preuve. À quel moment est-ce que vous avez vérifié qu'elle avait les droits sur les musiques? Aucun. Voilà. Démontrez-moi qu'il y a quelqu'un, un humain dans le processus, qui allait vérifier que la demande de retrait qu'elle a déposée était valide. Parce que moi, dans le processus, là, je vois pas où est l'humain dans l'histoire. C'est que des robots qui ont traité automatiquement le truc et qui ont fermé les chaînes de personnes qui n'ont rien demandé. Et ça, c'est pas acceptable. Bon, bref. Vous l'aurez compris, encore une fois, le copyright, c'est pas notre ami. Voilà.
Donc le copyright permet de protéger la société pour pas qu'une telle ou un tel vole la propriété intellectuelle, ça je suis parfaitement d'accord. Ils protègent en fait leurs droits, etc. Ça c'est normal. Mm. Mais quand c'est du copyright qui empêche la circulation en accès libre à
de la connaissance, voilà, du ça. Partage, voilà quoi.
Parce que admettons, oui, d'accord. Par exemple, je détiens les licences de Robocop. Je voudrais pas que quelqu'un d'autre veuille surfer sur mon succès et fasse un Robocop et puis que c'est pas moi qui l'a fait. Du coup, il y aurait un conflit parce que on confondrait les deux licences et ce genre de choses là. Donc ça c'est normal si tu veux pour préserver une marque, y a pas de problème. Mais par contre, pour tout ce qui est diffusion, accès libre, il faut que le copyright, justement, ne soit pas un frein à l'échange des informations, mais plus une protection pour les créateurs, c'est tout, quoi.
Ouais. Je te propose qu'on s'arrête là pour cette semaine, ATH.
Ouais, ça marche.
On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Alors, encore une fois, ce sera probablement un des derniers podcasts de la saison, parce que nous arrêterons en août. Voilà, on reprendra probablement... fin août, début septembre, voilà. Allez, reposez-vous bien, profitez bien des vacances pour ceux qui sont en vacances, bon courage pour ceux qui vont taffer par cette chaleur. Ciao à tous.
Salut.